Voilà, c'est une joie de me trouver devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que je suis dans cette église, mais la dernière fois que j'ai été ici, ça remonte à au moins 20 ans. J'ai calculé un petit peu, et c'est au moins 20 ans, et je crois que même on approche les 25 ans. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu. La vie continue. Et donc, l'Église a beaucoup changé et beaucoup a grandi, surtout. Et donc, c'est vraiment une joie de vous retrouver ici ensemble et de savoir que l'Église est en marche et continue à marcher et vraiment à glorifier Dieu. Donc, c'est comme Eric dit, je suis émérite. Et donc, voilà, c'est un beau mot, hein, c'est formidable. Oui. C'est moi qui l'ai inventé dans la fédération. Donc, j'ai été une des deux qui ont proposé ça. Et du coup, voilà, c'est adopté. Et donc, voilà. Je crois que c'est important, donc, parce que c'est l'avant. Et donc, nous préparons dans notre cœur le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre et qui vient aussi dans notre vie. Et je crois que c'est très important de se préparer pour cela et de vraiment que Noël ne soit pas uniquement une fête de cadeaux, mais que Noël puisse être en effet la célébration du cadeau que nous avons reçu de Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ et son pardon. C'est vraiment immense ce cadeau qu'il nous a donné. Et donc, je voudrais aussi souligner qu'il est important de prier pour nos missionnaires. On vit des temps difficiles, et je me rends compte que les missionnaires ont vraiment besoin, tout le monde a besoin de la prière, mais les missionnaires ont besoin de la prière. Et donc, je voudrais vous demander spécialement de prier pour Nathan et pour Loïs, parce que donc, je n'ai pas bien entendu ce qui a été prié, mais donc, ils viennent donc, en septembre d'avoir un bébé, et ce bébé est tombé malade avec une infection pulmonaire. Et donc, très grave, il a été hospitalisé pendant 3 semaines. Et donc, il est sorti de l'hôpital, ça va beaucoup mieux. Mais donc, ça veut dire que Nathan et Loïs, avec Timaël, n'ont pas pu aller en... il y a un nom qui m'échappe. Cameroun. En Cameroun. Et donc, ils vont partir, si tout va bien, au mois de janvier. Que vraiment nous puissions les entourer dans la prière dans ces moments difficiles pour eux, et donc vraiment que le Seigneur permet une complète guérison à Timaël. Et donc voilà, si vous voulez penser à eux, ça sera vraiment formidable. Alors, je voudrais juste lire un passage en Matthieu chapitre 28, un passage très connu. Je suis certain que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez par cœur. Et donc, j'ai longtemps hésité, mais est-ce que je vais le faire, oui ou non? Et je me suis dit, mais pourquoi pas, parce que ça fait partie de la Bible. Et donc, c'est le chapitre 28, versets 19 à 20. Donc voilà, je ne cache rien, c'est juste 2 versets que je vais commencer avec. Il y aura d'autres versets qui suivent. Et donc, où Jésus, il dit, « Allez !» Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, voilà, comme je dis, c'est un passage qu'on connaît. On l'a entendu à plusieurs reprises, beaucoup. Et on sait qu'il y a des gens qui partent en mission, on sait qu'il y a des gens qui font de l'évangélisation. Et pourtant, j'ai parfois une impression que cet appel, donc de faire de toutes les nations des disciples, est quelque chose que l'on sait ici, mais que l'on ne sait pas dans le cœur. Et que c'est très difficile de l'appliquer en effet dans notre vie quotidienne et de vivre cet appel dans notre vie de tous les jours. Et quand même, il est question ici d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Faire des disciples. Je crois qu'on ne peut pas parler de la mission sans parler des disciples. Parce que c'est l'objectif. L'objectif de la mission, c'est que des gens vont marcher à la suite de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a besoin pour cela? Mais des personnes qui annoncent. Et donc, c'est notre mission ici, mais aussi au loin. Mais ce qu'on voit ici, moi j'étais en Thaïlande il y a 2 ans, et donc parmi le peuple mien, donc où travaillent Pafon et Alice Sely, et donc parmi le peuple mien, au nord de Thaïlande, il y a une église, donc une union d'églises du peuple mien. Mais il n'y en a pas une. Il y en a 2 ou 3. Et le problème, c'est qu'ils ont été évangélisés avec une pensée derrière qui venait de notre pays. Et donc, du coup, ils se sont dit, non, on ne peut pas vivre ensemble. Et c'est une grande souffrance, quelque part, pour Pafon et pour Alice, de se rendre compte qu'en effet, dans leur peuple, il n'y a pas d'unité par rapport à la foi. Et donc, Pafon, il fait un grand travail pour vraiment permettre à ce que ces unions d'Église puissent se rapprocher et vivre quelque chose de profond ensemble. Faire des disciples. Il ne suffit pas que les gens se convertissent. Ça, c'est que le début. La conversion est le départ d'une vie de discipulat. L'apôtre Paul, il disait « Ayez en vous les sentiments qui étaient aussi en Christ » en Philippiens 2, verset 5. Et on revient là-dessus tout à l'heure. « Ayez en vous les sentiments qui étaient aussi en Christ » Et on vient de dire, Jésus, j'aime bien la prière d'Esther, et donc Jésus qui était sans péché et qui a donné sa vie. Et l'apôtre Paul qui dit, ayez les sentiments de Jésus. Aïe, ça fait lourd. Hein? Ça fait aller faire de toutes les nations des disciples. Et voilà ce que la Bible nous demande. C'est formidable. Alors, le but du disciple, c'est marqué en Matthieu 10, verset 25, c'est que le disciple ne devient pas plus que son maître, mais que le disciple soit comme son maître, qu'il devienne comme son maître. Pour vous, dit Jésus, il est important que vous deveniez comme moi. Alors, est-ce que c'est l'objectif de notre vie? Est-ce que c'est l'objectif que nous, on va devenir comme Jésus. C'est beau tout ça. Et quand même, Dieu a mis cela à notre rapport. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors, à l'époque de la culture grecque, les gens se cherchaient des maîtres. Mais avec Jésus, ce n'est pas exactement pareil. En Jean 15, verset 16, il a dit que c'est Jésus qui choisit les disciples. Et donc, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, on voit ici que Jésus, il a dit, mais je vous ai choisi premièrement, puis je vous ai établi, je vous ai donné une place afin que vous alliez à partir de cette place. Alors, est-ce que nous avons la conscience que nous avons été choisis, que la main de Dieu a été mise sur notre épaule et dire, tu m'appartiens, tu es à moi. Vas-y, je te donne telle tâche et que tu puisses vraiment aller et porter du fruit. Portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, combien est-ce que nous l'appliquons dans notre vie. Parce que les gens ont besoin, en effet, de ce message. Les gens ont besoin de l'enseignement de Jésus. Les gens ont besoin de connaître Jésus. Alors, la vie du disciple commence avec le baptême. Et donc, Eric m'a dit qu'il y a eu récemment 6 baptêmes, si je ne me trompe pas, et que c'était la joie. Et donc, c'est encore quelque chose, je dis souvent formidable, c'est mon mot de passe. Et donc, c'est vraiment bien, et donc je me réjouis avec l'Église. Et ça commence avec le baptême, mais ça continue avec l'enseignement jusqu'au retour de Jésus. On n'est jamais fini. On sera fini lorsque nous serons ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à ce moment-là, on progresse, on va marcher, on va apprendre et on va se laisser former. Et je crois que là, c'est très important aussi dans notre vie. Parfois, je parle avec des gens qui on a une impression que voilà, ils ont tout et Dieu a tout donné et donc on n'a aucun problème. Que je dis, mais comment c'est possible? Moi, honnêtement, je vous confesse, puisque j'avance en âge et comme vous voyez, petit à petit, j'avance, hein, je me rends compte que j'ai beaucoup à apprendre. Il y a des choses dont je dis, mais David, tu n'as jamais vu ça avant? Et donc, je crois que là, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur nous met à cœur, que nous continuons notre vie durant à grandir à l'image de Jésus-Christ. Et donc, il est... Donc, le baptême est important pour le disciple. Et le baptême, en effet, c'est notre premier acte d'obéissance à Jésus. Il y a parfois des situations où, pour une autre raison, on ne trouve pas qu'on doit être baptisé, peut-être on ne se trouve pas assez saint ou quelque chose comme ça, mais la sainteté, Jésus dit, mais ça va venir. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu veux me suivre? Oui, je veux te suivre. Alors fais-toi baptiser. C'est tout simple. Le baptême, c'est que le Seigneur, il dit, toi, tu m'appartiennes par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et ma main qui s'approche de la main de Dieu en disant, et moi, Seigneur, je me donne à toi complètement pour que je sois renouvelé par toi. Et je crois que là, il y a quelque chose de très essentiel dans notre vie de chrétien. Donc, il a dit ici, dans la partie de Matthieu, il a dit, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi pas tout simplement au nom de Jésus ou au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de l'Éternel? Non, Jésus, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité dans la formule du baptême est très significative. Et donc, en 2 Corinthiens 13, verset 13, il y a l'apôtre Paul qui donne une bénédiction. Et la bénédiction, donc vous le connaissez aussi, est donc, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et donc ici, on voit la Trinité réunie. On voit en effet le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec un objectif dans notre vie. C'est la grâce de Jésus-Christ. Par lui, on obtient la grâce. C'est l'amour du Père. C'est par lui qu'on a obtenu le cadeau de Jésus, mais aussi la communion du Saint-Esprit. Et donc, on voit que les trois personnes dans la Trinité ont aussi des objectifs différents dans notre vie de disciple. Et il est bon de vraiment se rappeler cela et de dire, OK, je veux vivre vraiment sous la direction de ces trois personnes de Trinité. Il y a des gens qui disent, voilà, je suis gracié. Et donc, j'ai connu des personnes qui vivent une vie, mais souvent dans le péché. Et quand je leur demande, mais comment tu peux vivre comme ça? Oui, mais le Seigneur me pardonne. Ah bon? Mais pour être pardonné, il faut la repentance. Il faut l'abandon du péché aussi. Et nous avons entendu ça ce matin. On a été bien formés ce matin déjà à ce sujet-là. Et donc, je crois que c'est vraiment important à ce qu'on adhère à tous les caractères de la Trinité, donc l'amour, la grâce et la communion, et donc que l'on vit la puissance de Dieu. Alors, le baptême et l'enseignement du disciple sont donc étroitement liés à l'amour du Père, à la grâce de Jésus-Christ et à la communion du Saint-Esprit. Et je voudrais juste avoir une petite réflexion sur ces trois caractères. Et encore avec des versets que beaucoup vous connaissez. Donc, l'amour du Père, tout commence avec cela. L'amour du Père, c'est quelque chose qui nous a été donné. Et donc, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est profond cet amour. Et donc cet amour qui vient directement de Dieu pour nous toucher, pour nous transformer, pour nous inonder. Dieu a tant aimé le monde. Il n'y a pas de questionnement là-dedans. C'est une donnée ferme. Par contre, donc, ce qui est lié à cela, c'est le commandement qui est donné dans l'Ancien Testament et dont, en fait, la parole de Dieu nous montre clairement que ce n'est pas facile de suivre ce qui a été donné dans l'Ancien Testament comme commandement, mais qui est renouvelé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc aussi en Matthieu 22, versets 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et donc lié à cela, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On aime Dieu, mais aimer le prochain, oui, on aime le prochain. Ah oui, et telle personne. Combien d'entre nous ont quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, avec qui ça ne marche pas? Et Dieu, parfois, il nous tape sur les épaules en disant, écoute, oui, mais j'aime tout le monde, je suis en bien communion avec tout le monde, ça va très bien. Oui, et tel frère, oui, et telle sœur, oui, ou tel collègue. Et que, en effet, on devrait se dire, ben oui, aimer le Seigneur, mon Dieu, c'est une chose, mais aimer mon prochain comme moi-même, là, c'est pas facile. Parce que je crois que quand on est honnête, on a tous parfois un problème à mettre cela en pratique. Et pourtant, c'est demandé. C'est demandé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire que Dieu nous aime. Et puisque Dieu nous aime, nous aimons Dieu, et puisque nous aimons Dieu, nous aimons aussi celui que Dieu aime, donc notre prochain. Sinon, notre amour envers Dieu n'est pas vraiment une réalité. Si nous n'aimons pas celui que Dieu aime, il y a un problème dans notre relation avec Dieu. Et beaucoup ne se rendent pas compte de cette situation. Alors, on connaît très bien Jean 3,16, donc ce que j'ai cité tout à l'heure. Mais il y a aussi 1 Jean 3,16, où il a dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, alors nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Oula. Jésus a donné notre vie pour nous, alors nous aussi, on doit donner notre vie pour les frères. Jusqu'à où est-ce qu'on ira pour nos frères et sœurs? Qu'est-ce que l'on fait réellement pour que nos frères et sœurs, et cela dans le monde entier, puissent vivre dans une situation de paix et d'amour avec Dieu? Nous aussi, on doit donner notre vie pour les frères. Et tout ça, c'est la mission. Alors, je ne demande pas à ce que chacun de vous voulait partir vers l'Asie et vers l'Afrique ou l'Amérique du Sud, parce qu'Éric, il va se demander, mais qu'est-ce qu'il fait encore ici dans l'Église, hein? Mais il y a beaucoup de travail à faire autour de nous. Quand on voit ce qui se passe dans la société, mais les gens ont soif de reconnaissance. Les gens ont soif d'amour. Les gens, aujourd'hui, le mot d'ordre que l'on entend, c'est la colère. Je suis en colère. Combien de fois est-ce qu'on ne l'entend pas? Et pourquoi on est en colère? Parce que les gens sont fermés sur eux-mêmes. Voient ce qui se passe en eux-mêmes. Et ils ne sont pas ouverts vers le cadeau que Dieu a donné. Et je crois qu'il est vraiment important à ce que nous puissions apporter aux gens qui sont autour de nous ce cadeau qui est donné en Jésus-Christ et ce cadeau qui peut changer notre vie entièrement pour que nous puissions vivre en paix. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, en effet, aussi dans notre société, que nous puissions vivre en paix. Donner par amour notre vie aux frères, mais aller même plus loin. Donner notre vie pour les gens qui sont dans le monde, pour leur apporter l'évangile de Jésus-Christ. Donc l'amour. Nous sommes baptisés au nom du Père, au nom de l'amour. Puis, nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Fils, et donc c'est la grâce. En Éphésiens 2, verset 8, il est dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Et je crois que là, c'est vraiment un cadeau parfait. Un cadeau qui est venu par l'amour de Dieu et qui s'est concrétisé dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et je voudrais lire en Tite, je le trouve facilement. Oui, oui, je vais le trouver, mais je vais dire oui. Ah, j'ai mis une page. Parce que la grâce n'est pas quelque chose de passif, n'est pas quelque chose de vide. Mais la grâce, donc, en 1 Tite 2, versets 11 à 14, nous dit « La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes et elle a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Donc, Tite 2, versets 11 à 14. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait avec la grâce? Qu'est-ce qui nous importe là-dedans? Mais premièrement, de renoncer aux impiétés, donc de renoncer aux péchés, de renoncer aux œuvres de notre chair. La deuxième chose, c'est de vivre dans le siècle, donc dans notre monde aujourd'hui, selon les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, selon les enseignements de la parole de Dieu. Et donc la troisième chose, c'est d'attendre le retour de Jésus. C'est l'avant. Et Jésus, son retour s'approche de plus en plus. Et parfois, personnellement, je ne sais pas comment c'est avec vous, mais moi, je me dis parfois, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends encore? Je voudrais bien que le Seigneur vienne pendant que je suis encore sur terre. Je voudrais bien voir l'apparaître dans le ciel, ça serait formidable, et aller vers lui. Mais bon, on attend que ça arrive. Mais ce moment approche. Et ce n'est pas forcément dans 1000 ans. Ça peut être aujourd'hui même, ça peut être demain. Et est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à renoncer, à vivre selon l'enseignement et à attendre le Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est là la grâce. C'est là ce que la grâce nous enseigne. Alors, donc, la grâce, c'est aussi très lié au pardon. C'est logique. On est gracié. Et un autre mot pour être gracié, c'est d'être pardonné. Alors, dans nos relations personnelles, on parle plutôt de pardon. Mais là aussi, donc en Matthieu 6, versets 14 à 15, il est dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et c'est sévère, ça. Et merci pour le texte que vous avez lu tout à l'heure, donc où il y a le pardon qui est donné par Dieu, parce que je voudrais dire par cela que on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Et donc, ce qui est important dans notre vie, c'est que nous puissions donner ce que nous avons reçu. Et donc, une question que l'on pourrait se poser très directement, quand on est dans la situation de vivre un peu en conflit avec des personnes, c'est de se dire en combien, moi, j'ai reçu, non pas reçu, en combien, moi, j'ai accepté le pardon de Dieu. Comment ça se fait que je ne suis pas capable de pardonner? Et il n'y a qu'une réponse. C'est que je n'ai pas entièrement accepté le pardon qui vient du ciel. Parce que sinon, j'aurais pu donner le pardon à mon prochain. Et là, c'est encore une chose importante dans notre vie, que nous puissions vraiment pardonner les personnes autour de nous, pardonner ceux qui nous ont offensés. Et là, il y a l'apôtre Pierre qui demande à Jésus, mais combien de fois est-ce qu'il va pardonner? Alors, 7 fois? Alors, Jésus, je crois qu'il a fait comme ça. Mon œil. 70 fois 7 fois. Et donc, en effet, ça veut dire toujours. Mais même si on le calcule vraiment, ça fait 490 fois. Et franchement, quand quelqu'un vient 490 fois vers moi en disant « David, est-ce que tu veux me pardonner ?» Parce qu'il y a encore... Je crois qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et quand même, c'est demandé. Parce qu'il est dit en 2 Corinthiens 5, verset 19, « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. » Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu nous l'a donnée. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Donner le pardon aux autres. Qu'est-ce que nous attendons? Et je dis ça parce que c'est un problème commun. Je suis en train de prêcher à moi-même. Ce matin, j'ai relu mes notes et j'ai réfléchi un peu sur le message à donner. Et je me suis dit, David, tu fais une bonne prédication à toi-même. Parce que c'est un problème que l'on rencontre dans notre vie régulièrement, mais qu'on doit résoudre aussi. Alors, la dernière, donc, c'est, donc on est baptisé au nom de l'Esprit. Et donc, c'est la communion. Et il y a beaucoup à dire sur la communion, mais il y a un manque de temps pour cela et je crois qu'on ne peut pas éterniser. Mais en 1 Corinthiens 12, verset 13, il a dit « Par l'Esprit, nous formons ensemble un corps qui exprime le Christ. » Par l'Esprit, nous formons ensemble un corps qui exprime le Christ. Donc là, c'est une donnée. Que vraiment, nous sommes là au nom du Christ. Et donc, nous avons comme tête du corps le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, acte 2, versets 44 et 45, c'est très connu aussi. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. C'est riche, ça. C'est vrai, aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais c'est très riche. Et je crois que ça donne à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment pour ceux qui sont dans le besoin? Combien est-ce qu'on partage en cela? Et donc, j'arrive à la fin. Je voudrais lire en Philippiens 2, versets 8 à 11. Donc, c'est un... excuse-moi, non, c'est pas ça. J'ai Philippiens 2, versets 1 à 11. Je me suis dit, c'est un assez long texte, mais que je veux donner vraiment comme réflexion. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Donc vous voyez là vraiment quelque chose de fort. Et donc avoir une même pensée, une même amour, une même âme, et donc pas de rivalité, pas de vaine gloire, mais humilité. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et donc là, c'est un passage que j'aime beaucoup. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou réfléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, on voit ici que Jésus, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort à la croix. Il était l'égal de Dieu. Et il a dit, ça va, c'est bon. Je veux être tout au fond. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit là, et Dieu a souverainement élevé. Et là, on oublie souvent l'action de Dieu. Souvent, on fait un effort pour rester à un certain niveau. On fait un effort pour être bien vu. Mais ici, donc, il a dit non. Jésus est humble jusqu'à la mort à la croix. Ayez les sentiments qui est en Jésus. Et donc, il a dit, et Dieu l'a souverainement élevé. Et est-ce que nous sommes conscients que si nous nous humilions les uns devant les autres, devant Dieu, bien entendu aussi, que Dieu il va nous permettre aussi d'être relevés et d'être à son service et d'être utile. Et voilà ce que je voudrais passer aujourd'hui, parce que l'amour, la grâce et la communion nous ont donné par Dieu afin que nous soyons centrés sur le Christ. Il est la tête du corps. Et donc, que nous soyons aussi en étroite relation les uns avec les autres dans le corps du Christ. C'est important. C'est important de vivre cela. C'est important de rayonner cela dans le monde qui devient de plus en plus noir. Et que nous puissions vraiment montrer à nos collègues, aux jeunes, à l'école, notre voisinage, vraiment ce que Dieu apporte dans la vie d'un être qui se confie à lui. Et bien entendu, il faut prier pour les missionnaires. Et il faut aussi donner pour que les missionnaires puissent vivre et accomplir aussi leur mission dans les pays où ils ont besoin de cela. Donc voilà la pensée que j'ai voulu vous apporter ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement.